détente.
Mardi politique.
C'est l'heure de politique, de Mardi politique sur France 24 RFI. Bonsoir Frédéric Rivière.
Bonsoir à tous.
Et ensemble, nous recevons Marine Le Pen. Bonsoir.
Bonsoir.
Présidente du Rassemblement National, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors évidemment, on ne va pas changer beaucoup de registres et toujours parler du Covid, de la Covid-19, puisque c'est ça qui occupe quand même grandement l'actualité. Donc l'image a choqué samedi à Paris, dans une église traditionnaliste de Paris, une messe de Pâques s'est tenue sans respect des règles sanitaires. Pas de masque, l'hostie distribuée à la main dans les bouches ouvertes, on imagine le bénitier. Donc une enquête est ouverte, l'affaire est sérieuse. Les évêques de France se disent eux aussi choqués. Est-ce irresponsable, égoïste et c'est une mise en danger d'autrui, même si c'est pour aller prier le Seigneur?
Je pense que chacun doit essayer de respecter les gestes barrières et les règles sanitaires. Qui sont celles qui sont à l'œuvre depuis maintenant un an. Mais je pense qu'il y a un côté malsain, si vous voulez, sur les réseaux sociaux, à la télévision, d'aller chercher à passer d'un scandale à un autre. Aujourd'hui, c'est ça. Hier, c'était les personnes qui dansaient, on voyait dans une fenêtre, dans un ministère. La fois d'avant, c'était des dénonciations d'un dîner.
Donc des appels à la dénonciation, à la délation.
Nous avons autre chose à faire. Et notamment, le gouvernement doit, chacun doit évidemment y mettre du sien pour éviter la circulation de ce virus, mais le gouvernement ne peut pas s'exempter de ses propres responsabilités. Et moi, c'est celle-là qui m'intéresse, car mon objectif, c'est d'être présidente de la République.
Oui, mais juste, je finis. Est-ce que, en quelque sorte, lorsqu'on a entendu Emmanuel Macron la dernière fois, on avait le sentiment qu'il troquait, qu'il échangeait une forme de coercition? Il n'y aura pas de coercition contre une responsabilité individuelle. Donc celle-ci, on ne peut pas non plus s'en exonérer de cette responsabilité.
Non, mais d'abord, Emmanuel Macron fait ça depuis un an. C'est-à-dire que depuis un an, il culpabilise les Français. Depuis un an, il refuse d'admettre que les mesures qui ont été prises sont inefficaces, sont trop tardives, que la France a échoué à mettre en place une stratégie qui soit performante pour lutter contre le Covid, que ce soit depuis les masques jusqu'aux tests qui ont manqué et aujourd'hui aux vaccins après lesquels on court cruellement dans les territoires. Et la dernière démonstration d'Emmanuel Macron était, je crois, tout à fait symptomatique. Il est venu à la télévision pour dire, comme d'habitude, si ça ne fonctionne pas, c'est de votre faute, c'est vous qui ne respectez pas les mesures, alors que l'immense majorité des Français les respectent. En revanche, moi, je n'ai aucun mea culpa à faire, je n'ai aucune responsabilité. Donc, en fait, on s'aperçoit que Emmanuel Macron vient pour protéger le commandement. Et qu'en revanche, il envoie au casse-pipe de la responsabilité l'ensemble des Français. Je ne crois pas que ce soit le rôle du président de la République. Il commence par assumer ses propres responsabilités et évidemment suivront la responsabilité individuelle, ce qui est le cas de l'ensemble des Français. On ne peut pas juger du respect des règles et des mesures en fonction de tel ou tel comportement traqué. Parce qu'il y a quand même une forme de traque et que je trouve un peu malsaine de ceux qui ne respectent pas.
Ce qu'il y a de troublant dans cette affaire-là, c'est que, comme disait Rimbaud, je crois, à 20 ans, on n'est pas raisonnable. Là, ce n'est pas des jeunes de 20 ans, ce sont des familles qui vont à l'église avec des ecclésiastiques. A priori, ce sont des gens responsables. Comment on peut expliquer qu'ils s'exonèrent, en effet, de toutes les précautions? Est-ce que c'est parce que ils se sentent sous protection divine, en quelque sorte.
Je ne sais pas, je ne vais pas parler à leur place. Mais encore une fois, moi, ce qui m'intéresse, c'est le devoir du président de la République de protéger les Français. Est-ce que ce devoir est rempli? Ma réponse est non. Qu'après, encore une fois, certains s'exonèrent de la sagesse et s'exonèrent de la prudence, bien sûr, sur 67 millions de Français, il y a sûrement des gens, par-ci, par-là, qui ne respectent pas. Est-ce que on doit commenter tous les jours, encore une fois, ces coups de canif dans le contrat, plutôt que de juger de l'héroïsme? Moi, je dis l'héroïsme des Français, parce que nous vivons tout de même depuis un an, soit en prison, quand c'est le confinement, soit en semi-liberté, comme c'est le cas aujourd'hui. Les Français dans la rue, je suis désolée, moi j'y vais, je vois des Français avec des masques. Ils ne vont pas au restaurant, ces restaurants sont fermés. On ferme des commerces régulièrement avec des risques de ruine.
C'est pas un peu démagogique ce que vous dites en
fait ? Non, c'est pas démagogique, c'est la réalité. Et vous le savez parce que vous aussi vous allez dans la rue et vous aussi vous voyez que tout le monde respecte en réalité les règles. Et puis il y a une mesure à trouver quand on voit une famille de trois personnes qui probablement vit dans la même maison aller partager un verre de rosé sur une plage et se faire arrêter, il est évident que la première réflexion...
Verbalisé, pas arrêté.
Oui, verbalisé. Enfin, je vous signale qu'il y a quelque temps, une commerçante s'est fait, elle, arrêter. Arrêtée et mise en garde à vue parce qu'elle était soupçonnée d'avoir ouvert son commerce. Moi, j'aimerais bien qu'on garde quand même raison. En ce sens que il y a des faits qui sont des faits, effectivement, d'incivilité, incontestablement, mais à côté, il y a une explosion de la délinquance et de la criminalité. Et on aimerait qu'il y ait autant d'énergie qui puisse être mise à poursuivre et à traquer les cambrioleurs, les voleurs, les agresseurs, les violeurs, les assassins, qu'il y en a à traquer les gens qui ont le masque sous le nez. Voilà, moi je suis pour le port du masque, je l'ai toujours été et je le réclame depuis un an. Et j'en réclamais quand il n'y en avait pas et que le gouvernement nous expliquait que ce n'était pas nécessaire. Mais je pense qu'il faut encore une fois raison garder et... Je suis un peu inquiète de voir l'ensemble des forces de l'ordre à qui semble-t-il la mission prioritaire qui leur est donnée, c'est de faire respecter les gestes barrières. N'oublions pas quand même l'essentiel, le principal, ce qui blesse, ce qui démunit les Français et qui est quand même la délinquance et la criminalité.
Marine Le Pen, on va parler d'un sujet... J'ai pas envie de dire rapidement parce que c'est un sujet lourd, c'est celui de l'euthanasie puisque les députés en débattent ce jeudi à l'Assemblée nationale. Ils vont se pencher sur une proposition de loi, celle garantissant le droit à une fin libre et choisie. Alors, je suis obligée de quand même de vous dire qu'est-ce qu'il y a dans ce texte. Une mort rapide et sans douleur, elle concernerait une personne en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, lui infligeant une souffrance physique qui ne peut être apaisée ou qu'elle juge insupportable. Sujet difficile qui mérite réflexion, où en est la vôtre ?
Moi, je comprends tout à fait les raisons qui justifient ce débat. Je pense que la lutte contre la douleur est une priorité et je ne suis pas convaincue que la France soit à la pointe de cette prise de conscience de la nécessité d'éviter à tout prix la douleur, y compris en fin de vie. Mais très honnêtement, au moment où on se bat pour sauver des milliers de vies, je trouve qu'il y a tout de même une forme d'indécence à mettre à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, et je pense au groupe Liberté et Territoire, un débat sur comment mettre fin à la vie. Voilà. Il y a des moments où la décence nécessite que l'on choisisse son moment. Ce débat, il doit
c'est
exister.
C'est jamais le moment, Marine Le Pen.
Si. Ça, c'est sûrement pas le moment en ce moment. Ça, c'est sûr que encore une fois, au moment où des milliers de soignants se battent pour sauver des milliers de nos compatriotes, où la France a enregistré, je ne tiens pas le compte, pardonnez-moi, il est douloureux, près de 100 000 morts, je pense que on pourrait éventuellement repousser ce débat plus tard.
On va parler de l'école, Marine Le Pen. Les élèves de France devaient en principe renouer aujourd'hui avec l'école à domicile pour cause de lutte contre le Covid. 4 jours de cours à distance avant le début des vacances de printemps, sauf que ça ne s'est pas bien passé du tout, puisque les plateformes numériques dédiées ont été inaccessibles, totalement saturées, ou victimes d'attaques informatiques venues de l'étranger, selon les propos du ministre de l'Éducation. Y voyez-vous un défaut de préparation, un défaut d'anticipation ?
Incontestablement, cela fait un an que nous sommes confrontés à cette crise sanitaire. En réalité, plus d'un an, car dès le mois de janvier, nous savions que nous allions avoir affaire à un virus dangereux. Moi-même, dès le mois de janvier, j'alertais à l'Assemblée nationale pour réclamer de faire le point sur les masques, de faire le point sur nos capacités de médicaments, de respirateurs, etc. Bon. Je crois que le gouvernement n'a pas cru dans la deuxième vague et probablement il n'a pas cru dans la troisième vague. Donc il ne se met pas en situation de prévision, de prévoir. Et on se retrouve, comme à chaque fois, dans tous les domaines, face à manifestement une imprévisibilité, enfin une imprévision, une imprévoyance, pardon, de la part du gouvernement. Oui, oui, bien sûr.
Un mot sur la vaccination, donc les vaccinodromes, puisqu'on a vu que ça commençait ce lundi, notamment au Stade de France. Alors il y avait Gérald Darmanin, Jean Castex, je le dis pas dans l'ordre protocolaire. Hein. Il y avait le ministre de la Santé Olivier Véran, les élus locaux. Est-ce que c'était pour donner ce coup d'envoi en quelque sorte? Certains disent c'est en fait on dépouille Pierre pour habiller Paul et faire une espèce de grande com au Stade de France. Est-ce que vous dites c'est bien, vaut mieux tard que jamais et allons-y dans ces vaccinodromes?
Oui mais d'accord, oui il faut faire des vaccinodromes mais il faut avoir des vaccins. Parce que c'est bien beau d'avoir des vaccinodromes mais s'il n'y a pas de vaccin pour pouvoir vacciner les gens, honnêtement aujourd'hui, le résultat est pitoyable.
Ils attendent du Johnson & Johnson.
Non, le résultat aujourd'hui est pitoyable. Il y a 5% de la population qui a reçu deux doses de vaccin, c'est-à-dire 3,3 millions de personnes. À ce rythme-là, permettez-moi de vous dire qu'on n'est pas sorti de l'auberge selon la formule consacrée. Faire de la communication, ça commence à devenir, je crois, critiquable, presque insupportable même. Donc, les membres du gouvernement devraient s'attacher à apporter des réponses. Moi, je sais que j'ai eu le témoignage d'un maire qui a appelé le préfet en disant « Voilà, je suis obligé de fermer la grande salle, mon vaccinodrome local, en quelque sorte, parce que ce week-end, je n'aurai pas de vaccin. Réponse du préfet, est-ce que vous ne pourriez pas moins vacciner dans la semaine pour pouvoir continuer à vacciner le week-end ?» Bon, ça, c'est de la com. Et vous voyez, la communication dans des moments comme celui-là est encore plus inadmissible que dans n'importe quel autre moment. Mmh. Alors, ça veut dire qu'il faut aujourd'hui que l'on se tourne pour pouvoir trouver des moyens d'apporter des vaccins à nos compatriotes. Or, on est confronté à des obstacles idéologiques incompréhensibles.
Vous voulez parler du Spoutnik ?
Mais notamment, oui. notamment, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on ne se tourne pas vers toutes les capacités.
Vous pensez qu'il y a de la géopolitique dans le refus du Spoutnik ?
C'est difficile de dire autre chose, puisque le ministre l'a lui-même avoué, M. Le Drian, a avoué lui-même qu'il considérait...
Il a dit que la Russie en faisait un instrument de propagande, un outil de communication.
À partir du moment où il dit cela, ça veut dire que donc il considère que des considérations géopolitiques doivent passer au-devant de la santé de nos compatriotes. Moi, je me moque de savoir si la Russie cherche à faire du soft power avec son vaccin. Ce que je veux, c'est que les Français soient vaccinés.
Oui, enfin, le président argentin a été vacciné par le Sputnik V et il est testé positif.
Mais bon. Oui, mais c'est pareil pour tous les vaccins. Car la réalité, et on est obligé de le dire, c'est qu'en réalité, c'est un vaccin contre les formes graves du Covid. Mais
certains disent d'ailleurs même qu'en vérité,
le vaccin n'empêche pas d'attraper le Covid et n'empêche pas de transmettre le Covid. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, un monsieur qui avait saisi la justice s'est vu opposer par la justice le refus pour lui d'arrêter de porter le masque au motif qu'il était vacciné, précisément parce que le vaccin n'empêche pas la transmission.
Marine Le Pen, vous nous avez dit dès le début de cet entretien, je veux être présidente de la République. Nombreux sont ceux qui vous ont considéré comme politiquement perdu, fini, après le débat de l'entre-deux-tours en 2017, mais vous êtes toujours là, et tous les sondages indiquent, ou prédisent plutôt, que vous serez de nouveau là au deuxième tour en 2022, et pourtant, beaucoup pensent que vous pourriez vous être l'obstacle à la victoire des idées que vous défendez. Est-ce qu'il vous arrive de vous demander si leur analyse est pertinente ?
Je pense que leur analyse, le temps l'a démontré, n'est pas pertinente pour une raison simple. C'est qu'aucun de ceux qui pensent cela, il n'y en a quand même pas non plus énormément, il y en a quelques-uns, mais pas énormément, n'ont réussi à apporter une proposition de candidature qui, dans les sondages, au moins, parce que nous n'en sommes qu'au niveau des sondages, hein, bien sûr, permettent d'envisager la présence au second tour et a fortiori, et encore moins une victoire. Donc, si vous voulez, moi je veux bien, je pense que le temps de la critique est terminé. J'ai la possibilité de gagner cette élection présidentielle, de changer fondamentalement une politique qui fait souffrir des millions de Français. On a cette possibilité, parce que nous sommes des millions de Français à espérer tourner la page de la politique d'Emmanuel Macron. Il n'est plus le temps des querelles, il n'est plus le temps des critiques, surtout lorsqu'elles sont stériles, il est le temps de l'unité, il est le temps de l'action, il est le temps de la dynamique. Et donc moi, je les appelle à venir travailler
avec
moi.
Quand vous dites l'unité, c'est un appel à quoi ? À la droite, au centre, aux sociaux-démocrates ?
C'est un appel à tous les Français. Vous savez très bien que je crois que la droite et la gauche sont des concepts largement dépassés et donc je compte faire un gouvernement d'union nationale. Alors je m'explique sur ce sujet parce que c'est quand même important. L'union nationale, dans mon esprit, c'est pas une coalition à l'allemande.
Ouais.
Le but, c'est pas de prendre quelques ministres de tel parti, quelques ministres d'un autre parti et quelques ministres d'un troisième, y compris des gens d'ailleurs qui ont très largement échoué par le passé. L'idée, c'est d'amener à moi des compétences sans regarder d'où elles viennent, de dépasser les clivages partisans en disant les compétences, la France en a besoin, moi je ne regarderai pas si vous venez de l'ancienne gauche, de l'ancienne droite ou de je ne sais où, vous viendrez et vous participerez à ce gouvernement d'union nationale parce que vous êtes bon et que l'intérêt de la France l'exige.
Vous pourriez vous détacher de tous ceux qui, dans votre équipe, à ce moment-là, vous auraient soutenu et porté dans ce scénario au pouvoir ?
Mais je compte dépasser.
Comme avait un peu fait Nicolas Sarkozy, non, certains lui avaient reproché en disant l'ouverture pourrait peut-être aller jusqu'au sarkozyste.
Oui, mais sauf que là où Nicolas Sarkozy s'est trompé, c'est qu'en réalité, il a fait de l'ouverture un axe de communication. Et il a pris dans son gouvernement des gens qui étaient en désaccord fondamentalement avec les idées qu'il portait. Moi, ce que je ne veux pas, c'est que cette union, elle nuise à la cohérence de mon projet.
Vous défendez la triangulation, en fait.
Je crois que la cohérence de mon projet, elle est capable de réunir une majorité de Français. Et donc, c'est sur cette cohérence que j'en appellerai aux compétences d'où qu'elles viennent.
Alors, ça, c'est pour les idées, mais il y a l'argent. Vos caisses, les caisses du Rassemblement National, de votre parti, les caisses sont vides. On connaît cette expression dite par François Fillon qui avait énervé Nicolas Sarkozy.
Comme l'horloge ici qui est bientôt vide, hein, parce qu'il nous reste une minute.
Alors, comment vous allez financer votre campagne, Marine Le Pen ? Vous avez pu
Si nous étions dans une démocratie parfaite, les banques qui acceptent de prêter à d'autres mouvements politiques accepteraient également de prêter au Rassemblement National. Et ça devrait scandaliser tous ceux qui sont attachés à la démocratie.
Ça avait scandalisé en son temps François Bayrou qui...
C'est vrai, qui avait voulu créer une banque de la démocratie et Édouard Philippe a mis cette banque de la démocratie à la poubelle sans proposer aucune forme de mesure qui permettrait que la démocratie fonctionne correctement.
Voilà,
Oui, 30 secondes.
C'est bancal, 30 secondes, c'est pas le temps d'une question, et encore moins d'une réponse, donc on va en rester là.
Donc, il nous reste à vous remercier. Merci beaucoup aussi à Camille Néran et à Charlotte Urien-Tomaca, et bien sûr à toute l'équipe technique pour avoir préparé cette émission. Merci à tous, merci Frédéric, à la semaine prochaine.
Ce mardi, vivez sur RFI, la soirée spéciale Ligue des